les jardinières.
Et salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Comme tous les samedis, on se prépare activement à entamer notre activité printanière préférée, le jardinage. Jusqu'à 8h, on se consacre à vos questions et je ne suis pas seule à vous accompagner. Et non, et c'est un jardinier en herbe. Il est avec moi ce matin, c'est Sven, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Ouais, alors jardinier en herbe, je ne sais pas quoi dire. effectivement, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on a vraiment du plaisir à vous accompagner ce matin, malgré ce temps mitigé de la mi-juin. Notre professionnel, parce que oui, il y en a un, professionnel du jardin, a une heure à disposition pour vous donner le plus de conseils possible. Notre jardinier du jour, c'est Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Et oui, nous sommes le 15 juin, vraiment la mi-juin. On espère toujours que l'été s'installe définitivement. Allez, on garde espoir. On a plein de questions en tête déjà, questions jardinage. Alors, où placer notre potager pour avoir la meilleure exposition? Que planter en ce moment comme fruits et légumes? Ou alors, comment soigner cette vieille plante d'intérieur toute sèche. Toutes vos questions seront traitées grâce à Jean-Pierre Ribaud.
Et n'oubliez pas que toutes les questions sont acceptées, vraiment toutes. Hein. Enfin, à condition quand même qu'elles concernent jardin, évidemment. Hein, parce qu'on s'en fiche si vous avez des poux, par exemple. Pour les poser, ces questions, justement, vous composez dès maintenant le 0901 70 20 20, 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire un SMS. Là, vous prenez votre téléphone, vous notez le mot jardin, J-A-R-D-I-N, suivi de votre message. Et puis voilà, vous envoyez tout ça au 939. Sinon, il y a aussi et toujours le formulaire présent sur notre site internet sous l'onglet « Questions aux jardinières ».
Et bien voilà, le décor est planté. Sven, merci d'être avec moi ce matin. Tout est dit. Les jardinières, c'est parti.
7h, 8h, les jardinières.
Et on va commencer avec une question qui concerne tadadam, une orchidée. C'est une plante qui se trouve ici à la radio et que j'ai montrée à Jean-Pierre Ribaud. Alors, elle est juste à côté de lui. Elle a fait, en fait, je vous fais un petit descriptif rapide, elle a fait de nouvelles pousses, dont une avec des bourgeons, ainsi qu'une nouvelle feuille, toute petite, mais elle est là, on la voit. On se demandait s'il fallait quand même la tailler pour qu'elle pousse encore mieux qu'avant. Alors, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous aider, déjà peut-être en décrivant l'état de cette orchidée avec votre œil avisé de jardinier, et puis ensuite en nous disant ce qu'on peut faire finalement pour qu'elle se porte mieux.
Oui, bien sûr, Stéphanie. En fait, l'orchidée que vous avez montrée, c'est un vieux pied qui s'est mis à fleurir, je pense, fin d'année passée, qui a développé un axe avec plusieurs hampes florales dessus. Et puis, elle a décidé, en fait, cette orchidée, de développer maintenant des jeunes rhizomes, ça veut dire des nouvelles pousses. Plutôt que de repartir en fleurs sur ses extrémités, eh bien, on observe des ramifications avec des racines aériennes pour le moment, et puis des feuilles. Alors, dans un cas comme ça, on la laisse se développer encore un peu avec des racines aériennes de 3-4 cm. Et puis, quand elles auront atteint cette longueur, on peut sectionner ces rameaux sous ces racines et puis repiquer ces nouveaux pieds en fait, d'orchidées dans un substrat qui est adapté à l'orchidée, ça veut dire de l'écorce de pin avec de la tourbe, et puis enfin ça c'est quelque chose que vous trouvez facilement dans le commerce, et puis vous aurez développé de nouveau là, en la présence, de nouveaux pieds d'orchidées. Et puis avec de l'humidité et puis une exposition correcte pour l'orchidée, ça veut dire avec de la luminosité et puis un peu de température, eh bien ces rhizomes vont se mettent à pousser, développer des nouvelles feuilles et des fleurs. Et puis pour le nouveau pied, pour l'ancien pied, pardon, le pied mère, comme on l'appelle, eh bien, faudrait le remettre de nouveau un peu en actualité, ça veut dire avec un rajout de terreau, donc du substrat adapté à l'orchidée, de l'humidité, et puis elle va repartir à floraison plein boom.
7h, 8h, les jardinières.
On continue dans les jardinières avec cette question reçue cette semaine via le formulaire sur notre site. Question de Denis de Courtemèche. La voici. Mon citronnier est resté dans ma véranda emballé dans une toile tout l'hiver. En avril, j'ai enlevé la toile. Il était bien et avait toutes ses feuilles. Après les seins de glace, je l'ai mis dehors, mais une à deux semaines plus tard, toutes ses feuilles sont tombées et aujourd'hui, rien n'a encore repoussé. Que puis-je faire, Jean-Pierre ? Enfin, qu'est-ce que lui peut faire, en
qu'est-ce que Denis peut faire, en fait ? Voilà. Bon, il a certainement commis une erreur à une place sur la sortie hivernante de son citronnier. Alors, où a-t-il le problème ? Je ne sais pas trop. Il faudrait qu'il se garantisse qu'il ait eu assez d'humidité, mais là on est déjà vraiment trop tard. Il peut avoir un coup de sec, comme on dit, et puis un choc par rapport à ça, puis perdre son feuillage pour combattre ce manque d'humidité, parce qu'on sait que la feuille, c'est un élément qui est transpirant, et puis du moment que la plante souffre au niveau de l'hygrométrie, eh bien, c'est le premier élément qu'elle va laisser tomber pour éviter cette transpiration. Après, ça peut être aussi un choc au niveau température. De l'avoir déballé n'était pas faux, bien sûr. Je ne sais pas non plus la station hivernante pour ce citronnier, si c'était vraiment une station très froide ou tempérée, mi-tempérée. L'emballer n'était peut-être pas forcément une obligation. Par contre, c'est sûr qu'une fois sorti, j'imagine, après les seins de glace, s'il y a eu un coup de froid, eh bien, comme elle était sensible au froid d'entrée et puis avoir été encore déballé juste avant, ce choc thermique peut faire que elle se soit aussi défendue par rapport au feuillage qui a chuté. Alors maintenant, pour le récupérer, eh bien, bonne question, ça dépend un peu de l'élément manquant qui a été sur la sortie hivernante de ce citronnier. Ça veut dire, si c'est un manque d'humidité, je pense que ce sera difficile de faire revenir à feuilles. Si c'est un choc thermique, avec un arrosage et puis l'adjonction d'un peu d'engrais, devrait refaire partir cette végétation. Après, il faudrait vraiment voir la plante pour être très très clair sur le détail à donner. Mais c'est l'un ou l'autre des éléments qui a joué en défaveur de Denis pour son citronnier.
Mais c'est toujours assez compliqué, hein, Jean-Pierre, de faire pousser ces plantes par chez nous. C'est vrai qu'on a envie d'avoir ces plantes méditerranéennes.
C'est les périodes les plus critiques au printemps quand on les sort, parce qu'on risque soit des brûlures du soleil parce qu'elles ne sont pas habituées à la luminosité du soleil, soit un choc thermique parce que les températures sont différentes, soit... Oui, c'est des éléments difficiles, justement au printemps. Après, à l'hivernante, c'est plus facile parce que là, on les met en hivernation et puis elles sont moins exigeantes.
Les jardinières.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes toujours avec nous. On va parler un petit peu de patates douces. Et les patates douces, c'est vrai que c'est assez délicieux, hein, c'est assez à la mode en ce moment également. Alors justement, les gens ont envie de commencer des plantations. Alors comment faire pour planter des patates douces? Que faire pour qu'elles poussent au mieux dans un potager amateur, comme celui de Francis qui nous pose la question justement?
Ben comment faire, c'est pas très compliqué. Il faut surtout avoir la chance d'avoir un super potager avec une terre profonde, riche et fraîche. La patate, c'est un rhizome qui adore les sols justement profonds. Pour qu'elle se développe bien, ben c'est le gros moment de les planter. Maintenant, bien sûr, les seins de glace sont derrière, on ne risque plus rien au niveau du dégât des gels. Une profondeur de 8-10 cm maximum, un bon arrosage, et puis espérer que vous avez vraiment une super terre. Si vous aviez le problème d'une terre qui est plutôt médiocre, alors à ce moment-là, ça vaudrait vraiment la peine de lui mettre un compost en mulchy, ou en intégration avec un motoculteur pour permettre justement d'enrichir ce sol. S'il est vraiment séchard, alors un arrosage serait judicieux parce que la pomme de terre, elle apprécie vraiment les sols profonds et humides. Puis pour le reste, la patate douce, elle est plutôt facile en culture, quoi. Après, quand elle commence de se développer, la buter un petit peu, c'est intéressant dans le sens où on amène encore de l'humidité au pied. Pour le reste, c'est cool, ça pousse facile.
C'est parfait, merci beaucoup Jean-Pierre. On a justement quelqu'un en ligne, hein, Sven.
Oui, exactement, c'est Joël de La Chaux-de-Fonds qui est avec nous. Bonjour Joël. Joël, vous êtes toujours là? Ah, voilà, ici.
Bonjour Joël.
Voilà, vous êtes là.
Oui,
donc, oui, là. Joël, vous avez une question à poser à Jean-Pierre Ribaud. Allez-y, faites-vous plaisir.
Oui, bonjour à tous. Alors écoutez, j'ai un problème avec mon rhododendron. L'année passée, j'ai cru qu'il allait crever parce que très peu de feuilles, très peu de fleurs. Et puis cette année, j'ai cru que c'était une mauvaise herbe d'abord. J'ai l'impression qu'il repousse par le milieu, un nouveau petit rhododendron au milieu. Et les vieilles branches, qu'est-ce que je dois faire? Les couper, tailler les nouvelles, les vieilles?
Bon, oui, alors il faudrait le voir, ce rhododendron, pour vraiment pouvoir vous donner le dégât qu'il a occasionné l'année passée par rapport à quoi. Il avait vraiment jauni au niveau du feuillage ou bien il s'est desséché? Quel a été le phénomène?
Non, j'ai pas eu vraiment de jaune, j'ai eu juste très peu de feuilles, très peu de fleurs. Mais il n'y a pas eu de dégâts sur la feuille en soi.
Il est planté dans un endroit qui est plutôt frais ou bien c'est un endroit qui est plutôt séchard?
Je dirais plutôt sèche.
Oui, c'est peut-être là le problème. Parce que le rhododendron, il n'y a pas 50 problèmes sur le rhodo. C'est soit il chlorose par rapport à un terrain qui est trop calcaire, et puis le calcaire vous brûle la plante parce qu'elle apprécie que l'acidité, donc c'est en tout cas pas ça que vous avez eu. Le sec, un problème de sec, c'est plutôt ça, parce que l'année passée, on se souvient des canicules qu'on a subies. Et puis, de nouveau, pour se défendre de ce manque d'hygrométrie au niveau du sol, eh bien, le rhodo s'est défendu, et puis, il est un peu comme les foyards de nos forêts. Il a laissé sécher une partie de sa couronne supérieure pour essayer de survivre. Alors maintenant, de par l'humidité qu'on a eue printanière, eh bien, il se défend pour redémarrer. Il faut savoir que le rhododendron est une plante qui supporte hyper bien les tailles, hein, même très très violentes. Un rhododendron de 3 mètres de haut, vous pourriez le tailler à 50 cm avec une scie, des coupes qui soient propres. Eh bien, votre rhododendron va redémarrer avec une quantité de pousses et puis vous aurez des jeunes rhodos qui se redéveloppent. Donc, le vôtre, il faut enlever tous les éléments séchants qui sont par rapport aux nouvelles pousses. Lui rajouter peut-être un peu de terre de bruyère au pied pour essayer de garder un maximum d'humidité. N'oubliez pas, si vous rajoutez du terreau de terre de bruyère, de bien bien le mouiller avant dans un bidon, dans une seille, parce que c'est des terres qui sont des fois difficiles à remettre en humidité quand elles sont vraiment très sèches en sac. Et puis si vraiment vous avez une période de canicule, si on la revit comme on l'a vécu l'année passée, de temps en temps un bidon d'eau va lui faire que du bonheur, puis ça devrait redémarrer.
Et la taille, est-ce que je peux la faire tout de suite ou j'attends de voir qu'il vient en fleurs ?
Ce que je vous propose, Joël et Jean-Pierre, c'est qu'on va prendre votre numéro, parce que vous voyez, il y a un timing à la radio, c'est terrible. On va prendre votre numéro, Sven va vous rappeler d'ici quelques minutes, juste après notre pause musicale et météo et inforoute. Et puis on continuera de parler de la taille après, avec vous Joël. D'accord ?
Pas de soucis, merci.
Allez, à tout à l'heure.
Les jardinières.
Et on est de retour dans les jardinières. Notre professionnel Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves, est toujours bien confortablement installé pour répondre à toutes vos questions jardinage. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Oui, et vos questions, vous pouvez les poser en composant justement le numéro de notre standard. C'est 0901 70 20 20, 36 centimes la minute. Joël nous a appelé d'ailleurs tout à l'heure. On va le retrouver dans quelques instants pour poser encore des questions à notre jardinier professionnel. Et puis, juste le temps pour nous de vous rappeler qu'on lit aussi vos SMS et vos formulaires. Formulaires que vous avez remplis sur notre site tout au long de la semaine. Et SMS que vous pouvez envoyer en tout temps, même là maintenant, tout de suite, en vous réveillant. Vous écrivez le mot « jardin ». Et vous laissez un espace, vous tapez ensuite votre question, vous signez ceci et le tout vous l'envoyez au 939. Et je rappelle encore que vous avez jusqu'à 8 heures, donc un peu plus de 20 minutes pour poser toutes ces questions qui vous taraudent l'esprit de jardinier amateur ou même un petit peu plus professionnel.
Oh bah oui, et puis justement Joël qui nous a appelé tout à l'heure à ce numéro 0900 70 20 20, est en ligne. Joël, vous aviez donc un petit problème de rhododendron, on en parlait tout à l'heure. Vous aviez maintenant une question pour Jean-Pierre Ribaud concernant la taille, c'est ça ?
Exactement. Je voulais juste savoir si je pouvais le faire tout de suite ou si je devais attendre de voir ce qui vient quand même en fleur ou pas.
Alors, bonne question. Ça dépend du matériel qui vous reste sur ce rhododendron. Si vous avez des super démarrages de pousses de 4-5 cm, je dirais sur la longueur des rameaux et puis que la partie supérieure est vraiment sèche. Moi, je pense que pour faciliter la pousse des éléments qui sont arrivés, ce serait de les sectionner sur les derniers éléments verts qui se développent. Après, ce qui serait peut-être aussi intéressant, c'est de l'égaliser. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas une branche de 30 cm d'un côté et puis de 15 cm de l'autre. Sinon, vous prenez l'élément le plus court et puis vous taillez à peu près à la hauteur de ce petit élément-là. Comme ça, vous aurez une touffe régulière qui va se redévelopper. Voilà.
D'accord. Ok, super. Je vous remercie beaucoup.
On est bon, Joël. Vous avez toutes les réponses que vous vouliez.
C'est parfait, je vous remercie beaucoup.
Eh ben c'est magnifique, merci à vous de nous avoir appelés. On espère que ce rhododendron retrouvera des couleurs et surtout des feuilles et tout ce qui va avec aussi, et que vous passerez encore une belle vie avec lui.
Merci Joël.
Belle journée à vous, au revoir. Eh bien voilà, des questions, on en a une tapée, j'ai envie de dire. Des questions qu'on a reçues notamment via le formulaire sur notre site. Une question, voici une d'un auditeur de Glovelier. Il nous a posé ceci. Mes lauriers roses ont des feuilles qui jaunissent. Pouvez-vous me dire pourquoi et s'il y a quelque chose à faire ?
Oui, alors c'est très certainement aussi un choc thermique du laurier de ce printemps quand il a sorti sa plante de la zone hivernante et puis qu'il l'a mis dans l'espace où il se trouve. Alors si c'est le cas, eh bien, il va se réveiller sans problème. Si c'est juste une partie du feuillage qui est tombée, qui se met à tomber, et puis que c'est du feuillage qui est intérieur à la plante, alors il faut savoir que c'est naturel parce que le laurier, ou comme le thuya, ou comme les conifères, ou c'est égal, les feuillus à feuilles persistantes, comme les lauriers de haie, eh bien, au fur et à mesure qu'ils se développent avec les nouvelles pousses printanières, automatiquement, ils doivent perdre une partie des feuilles intérieures. Parce que de un, ben, elles sont trop à l'ombre, elles ne peuvent pas continuer de se développer, parce que les nouvelles pousses font parapluie au niveau de la luminosité à l'intérieur de cette plante. Et puis, c'est des vieilles feuilles de 3 voire 4 ans qui sont naturellement échues, qui sont périmées. Elles n'ont plus de raison d'être. Elles seront remplacées par les nouvelles pousses. Alors, le problème, c'est peut-être si c'est un grand laurier qui se développe trop grand et puis qu'un jour, on a envie de le tailler, eh bien, c'est de nouveau la même chose. C'est comme le rhododendron. On peut se permettre de faire une taille sévère sur un laurier. Il a la capacité, comme le saule que l'on connaît tous par chez nous, de redévelopper des éléments de pousse sur à peu près toutes les sections de bois qui les composent. Donc, mais je n'ai pas trop de soucis parce que le laurier, c'est une plante qui est très robuste. À moins qu'il ait subi un moins 5, moins 8, et puis là, puis encore, il peut encore redémarrer malgré un coup de froid ce printemps s'il l'a sorti trop tôt. Même après les 5 glaces, on a eu 2-3 retours de froid. Je n'ai pas trop de soucis. Il faut lui laisser de l'humidité, contrôler le volume du terreau qu'il a au niveau du pot, un peu d'engrais, et puis je n'ai pas trop de soucis pour son laurier, il va redémarrer.
Donc bon espoir pour ce laurier. Merci Jean-Pierre. On va passer des lauriers aux Surfina, Pétunia et Tagette. Alors c'est Sonia qui a planté ses fleurs dans de grands pots extérieurs et elle nous demande simplement à quelle fréquence il faut les arroser pour qu'ils poussent bien, parce que c'est vrai que voilà, toutes ces fleurs d'extérieur, elles ont quand même tout le temps des différences au niveau de la quantité d'arrosage, peut-être où les placer pour qu'il y ait une bonne exposition. Enfin voilà, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez aider Sonia ?
Oui, bien sûr. En fait, ça dépend un peu de l'emplacement, comme vous avez dit, de la barquette dans laquelle sont plantées ces annuelles. Si elle est à l'ombre, eh bien, on pourra lever le pied au niveau d'arrosage, peut-être à une cadence de tous les deux jours. Par contre, si c'est des caissettes qui sont plein sud, ben là, je pense que ce sera vraiment tous les jours, parce que c'est des plantes qui apprécient quand même l'humidité. Vraiment, ce n'est pas des plantes qui sont robustes à la période sèche, exposées plein sud. Et puis ça dépend encore aussi un peu du matériel du pot dans lequel ces plantes sont plantées. Si c'est un pot en terre cuite, eh bien on sait que la terre cuite, c'est un élément qui est gourmand en humidité. Donc il va absorber une bonne partie de l'eau qui sera mise en arrosage. Donc il faudra arroser encore plus que si c'est des pots qui sont en éternite ou en plastique. Après, c'est aussi une question de jugeote. On le voit, hein, quand le terreau commence de se retirer à l'intérieur de la barquette, puis que vous avez des plantes qui sont nanifiantes, et bien automatiquement c'est vraiment un manque d'eau. Simplement aussi ne pas oublier d'y mettre une fois par semaine, je pense, un peu d'engrais liquide quand vous faites votre arrosage, parce que c'est des plantes qui doivent pousser très vite sur une année pour arriver à faire de la pousse, de la fleur et de la graine. Alors bien sûr on n'a pas besoin de graines, mais pour avoir un maximum de fleurs, il faut absolument de l'élément nutrifiant, parce que c'est des périodes qui sont gourmandes en éléments, voilà.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queux, vous êtes avec nous ce matin pour justement répondre à toutes les questions concernant le jardin, des questions qu'on a encore. Avec celle-ci, vous pourrez certainement encore aider notre auditeur. Il a des sapins cônes, Picea, Glauca, Conica, et qu'il a planté il y a une trentaine d'années. Ils ont commencé à sécher ce printemps. Alors, ils étaient verdoyants pendant toutes ces années, justement. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce changement ? Et y a-t-il quelque chose à faire avant de les arracher ?
Alors, peut-être, oui. Le Picea glauca conica, c'est un petit sapin qui est vraiment conique, qui arrive à maximum 2 mètres de hauteur. Qu'il soit vieux ou qu'il soit jeune, là n'est pas le problème. En fait, il peut y avoir deux phénomènes sur ces Picea glauca conica. Il peut avoir une attaque d'araignées rouges au printemps qui fait qu'une bonne partie du végétal peut se dessécher par l'attaque qui est trop virulente. Je ne pense pas que c'est ce qu'il a subi, parce qu'on est seulement début mi-juin maintenant, et puis l'attaque elle est plutôt en cette période, et puis le dégât va se constater plutôt sur la période du mois d'août-septembre. Je pense que c'est plutôt le problème de nouveau de la canicule de l'année passée. Malgré les 30 ans d'existence de ces Picea glauca, eh bien, on s'en rend compte aussi maintenant par des sujets de, je sais pas, des hêtres, des sapins qui ont desséché l'année passée par la canicule qu'on a eue, qui étaient plantés depuis plus de 100 ans. Donc là, c'est plutôt un problème de sec, je pense. Ils n'ont pas supporté la canicule de l'été passé. Il faut savoir quand même que quand on a des longues périodes caniculaires sèches, comme l'année passée, de temps en temps, un peu d'humidité par arrosage est indispensable sur des sujets, parce que, évidemment, c'était terrible, oui.
Du coup, il est mort ?
Alors, pas sûr. Il peut de nouveau avoir laissé tomber toutes ses aiguilles pour justement limiter cette évaporation de l'humidité qui lui restait dans l'élément. S'il ne redémarre pas, je dirais, dans l'espace d'un mois, alors là, effectivement, il y aura plus gros dégâts et puis il faudra songer à le remplacer.
Bon, on espère que ça tienne encore pour un petit mois, puis que ça reprenne.
Oui. Voilà.
On espère, pour ce petit sapin cône. En tout cas, merci Jean-Pierre Ribaud de répondre à toutes ces questions ce matin. 0901 70 20 20, c'est tout facile, un numéro à composer sur votre téléphone si vous avez une question. Et vous pouvez également nous envoyer un SMS, comme vient de le faire Françoise. Françoise qui va nous parler d'un clivia. Mais ça, ce sera juste après la pause musicale. Elle nous a envoyé un SMS au 930.
7h, 8h. Les jardinières.
Et de retour dans les jardinières, 7h49, merci d'être avec nous. Et merci à Françoise de nous envoyer ce SMS. Alors, SMS qui nous demande la chose suivante. J'ai un clivia qui devient moisi à la base des feuilles, ainsi que sur les feuilles. J'ai dû jeter mes orchidées qui avaient eu le même problème, pourtant j'arrose peu. Alors, est-ce que c'est une maladie, Jean-Pierre Ribaud ?
Oui, non, en fait, ce n'est pas une maladie, c'est juste une attaque de parasites, c'est certainement de la cochenille floconneuse qui développe un petit flocon blanc. Et puis évidemment, eh bien, ce parasite, il sait très bien où aller se nourrir. Ça veut dire au démarrage de chaque feuille, c'est là qu'il y a le plus de sève qui est affluent, parce que la feuille, c'est vraiment la transformation, c'est la grosse usine qui va transformer la sève avec la photosynthèse. Donc, ce qu'elle aurait pu faire plutôt qu'acheter les orchidées et puis son surfinia, c'était de traiter avec une huile minérale. On trouve ça dans les grandes surfaces, c'est assez facile à trouver. Il faut simplement être précis sur le parasite ou amener une photo ou peut-être un rameau. C'est juste de la cochenille floconneuse. Et puis la lutte contre ce parasite, elle est toute simple en fait. C'est de l'huile minérale qu'on asperge avec un vaporisateur sur la plante. Et puis cette huile, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle étouffe le parasite parce qu'elle est épaisse. Et puis le parasite n'arrive plus à respirer. Et puis c'est une lutte biologique de la cochenille. Voilà.
Des questions qu'on reçoit par SMS encore, il y en a, Jean-Pierre, avec celle-ci. L'an passé, j'ai planté des pivoines, mais voilà, cette année, il n'y a que des feuilles. Pourquoi ?
Certainement que la pivoine, c'est comme la rhubarbe, c'est comme la pomme de terre, c'est des plantes qui apprécient énormément les sols très profonds, très riches et très humides. D'ailleurs, la pivoine, elle aime bien la situation plutôt mi-ombre que plein soleil. Alors, on sait que l'année passée a été terrible au niveau caniculaire, que la pivoine, c'est une plante à rhizome, au même titre que la pomme de terre, et puis qu'elle engrange dans l'année d'avant la floraison les réserves nécessaires pour la mise à fleur de l'année d'après. Alors, comme l'année passée a été torride au niveau température, et puis qu'elle a certainement été en souffrance par rapport à ça, eh bien, elle a eu un manque énorme d'éléments nutritifs emmagasinés dans ses rhizomes durant l'hiver. Et puis ce printemps, elle essaie de survivre, et puis elle a sorti que de la feuille et puis pas de la fleur. Avec un arrosage durant cet été, et puis peut-être un été un peu moins caniculaire, automatiquement que l'année prochaine, elle aura plus de chance à avoir des fleurs. Après, il faut juste se garantir d'avoir planté dans un endroit plutôt adapté, évidemment. Alors c'est les pleins sud, sur un sol rocailleux, où il n'y a pas de fond, et puis où il n'y a pas d'air, c'est peut-être pas le top. Ce serait mieux de la mettre dans un endroit mi-ombre, où il y a du sol profond. Et puis, elle peut encore le déplacer maintenant en prenant assez large au niveau de la terre pour ne pas avoir trop de pertes au niveau des rhizomes. Et puis, elle a plus de chance d'avoir beaucoup de fleurs sur cette pivoine parce que c'est une plante qui est quand même plutôt robuste. Elle est plantée dans un endroit idéal pour elle.
Merci Jean-Pierre. En tout cas, cette canicule a fait des sacrés dégâts au niveau des plantes.
Oui, vraiment. Voilà. Oui.
Nous, on a bien aimé. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais les plantes quand même un peu moins.
Nous, on a eu chaud.
Puis j'ai remarqué quand même les fruitiers. Ma foi, maintenant, ils ont donné beaucoup de fruits l'année passée, mais cette année...
Ça dépend des situations de nouveau. Il y a quand même des fruitiers qui sont passablement chargés. J'en ai remarqué quelques-uns. C'est plutôt les vergers qui sont plutôt exposés en hauteur. tout ce qui était dans les fonds de combe, on subit le froid printanier qu'on a subi, mais non, on ne peut pas dire que tout a alterné comme on aurait pu penser l'année passée par rapport à la mise à fruit exceptionnelle de l'année passée.
Bon, bah, bonne nouvelle pour nos estomacs. Moins bonne nouvelle par contre pour les pommes de terre de Gilles qui nous demande quel est le meilleur moyen de se débarrasser des doryphores, parce que voilà, bah, il a des doryphores comme souvent hein, sur les pommes de terre. Oui. Alors comment faire, Jean-Pierre ?
C'est très facile, Gilles. En fait, il y a deux manières. Soit la chimie, ce qui n'est pas forcément très intéressant, mais si vous en avez un hectare, c'est peut-être plus judicieux. Et puis, si vous avez juste un petit carré de pommes de terre, c'est une lutte manuelle. On les ramasse, on les met dans un sachet. Puis, si vous savez qu'en faire, ben, sur le verger d'à côté ou en forêt. Mais on peut les enlever facilement à la main. C'est un parasite qui est plutôt grand, qui n'est pas piquant. Donc, une lutte manuelle suffit, je pense.
Eh bien, c'est bien comme ça. Et pour faire ça, notre ami Gilles, on a aussi un petit souci du côté d'Esteban. Lui, il a une fougère sur laquelle il a observé des taches blanches et il se demandait si c'était normal ou alors s'il s'agissait de cochenille.
Oui, alors de nouveau, on est certainement en présence d'une cochenille floconneuse qui se développe. Bien sûr, on est le printemps, tout pousse également dans les parasites. De nouveau, avec une huile minérale qu'on trouve dans le commerce, c'est facile à traiter pour éradiquer le problème. Après, on peut dire que ce n'est pas la cochenille qui va vous faire périr votre plante. C'est désagréable de l'avoir. Ça peut laisser des taches grasses parce que la cochenille, ses excréments, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le top. Mais non, mais simplement une huile minérale du commerce en aspersion par-dessus et puis il va se défaire facilement.
La cochenille, c'est vraiment... Enfin, c'est facile à s'en débarrasser, mais ça peut arriver vraiment sur toutes les plantes à tout moment ou c'est principalement à cette saison?
Alors, je dirais que ça peut être récurrent parce qu'il y a des fois, il faut intervenir deux ou trois fois pour prendre l'ensemble des générations parce que l'huile va prendre l'insecte vivant, mais elle ne va pas prendre l'œuf. Donc, c'est peut-être là le problème, traiter en deux et trois fois pour être sûr de prendre toutes les générations qui arrivent au niveau de la cochenille. Après, c'est un parasite qui est quand même standard, colonisent facilement nos espaces, d'autant plus quand c'est des plantes qui sont encore intérieures, parce que ben, elles passent facilement l'hiver dedans et puis elles s'acclimatent facilement à nos latitudes, surtout quand on hiberne des plantes.
Jean-Pierre, on a Sven, à quelqu'un au téléphone. Alors rapidement, parce qu'on arrive déjà bientôt en fin d'émission.
Oui, voilà. Anaïs, bonjour. Vous êtes avec nous pour poser votre question à notre jardinier, notre professionnel paysagiste. Donc, Jean-Pierre Ribaud, allez-y.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai mis mes haricots en mai. Ils sont bien sortis, mais les feuilles sont venues comme des voiles. Puis pour quelle raison, j'en sais rien. C'est la première fois que ça m'arrive.
Le principe de comme des voiles, je le comprends pas trop. En fait, ils ne se sont pas développés
Si, ils sont sortis. Puis après, il y a seulement des filaments à la place des feuilles.
Oui.
Il y a une attaque de quelque chose.
Alors,
mais
ouais.
De quoi, je ne sais pas.
C'est un potager donc, dans lequel vous avez semé vos haricots. Vous avez déjà fait dans le passé des traitements ou des traitements sélectifs ou des choses comme ça? Non, pas du tout.
Non, parce que je ne fais jamais ça.
Ok, là. Parce que l'haricot peut être sensible.
Je fais des choses assez naturellement. Ouais.
Bonne question, il faudrait les voir. C'est soit qu'ils ont subi le froid et puis qu'ils ont de la peine à...
J'avais mis un voile dessus, alors normalement, et c'est pas tellement ça, je les avais mis à fin mai, le 23 mai.
Oui,
il a plus fait de si grand froid.
Oui, mais certainement que c'est quand même un problème du froid que vous avez eu. C'est pas le problème du voile. Le voile est intéressant pour faire une culture forcée, comme on dit, en mettant un voile, on garde le chaud au sol. Mais on a quand même eu deux, trois coups de froid encore qui étaient assez méchants. Puis l'haricot, il apprécie pas du tout ça. Il y a des fois, on a meilleur temps d'être en retard pour le semis de l'haricot. On a une meilleure récolte que d'être trop hâtif.
Mais voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin, en tout cas.
Merci,
une belle journée.
Bonne journée, merci.
Belle journée, parce que c'est déjà bientôt l'heure de filer au jardin. Jean-Pierre Ribaud, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On vous souhaite un bel été, parce que c'est la dernière fois que vous venez pour cette année.
Mais je suis tout triste.
Mais
comment je vais faire?
Mais on attend bien sûr de vos nouvelles dès l'année prochaine, dès la rentrée. Belle journée.
Je m'en réjouis, pareil à vous, puis bon week-end à tout le monde.
Bon week-end. Les jardinières reviennent bien évidemment, ce sera samedi prochain avec un nouveau rendez-vous dédié aux adeptes du jardinage. Cette fois-ci, nous serons avec Fabrice Rondet, notre paysagiste de Port-en-Truy. Donc si vous avez des questions, vous les posez sur notre formulaire en tout temps, c'est présent sur notre site, par SMS également au 939. En tout temps, elles seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h.
Belle journée.
7h, 8h, les jardinières.